Technologie, science,
algorithme,
simulation,
informatique.
Technologie.
Chers auditeurs, bienvenue dans ce 16e épisode du podcast Interstice. En France, depuis le 30 décembre 1996, l'adoption de la loi sur l'air reconnaît à chacun de nous le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et d'en connaître la qualité. Comment peut-on prévoir la qualité de l'air? C'est ce que nous allons découvrir avec Vivien Mallet, chargé de recherche dans l'équipe CLIM à l'INRIA. Vivien Mallet, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on entend par qualité de l'air?
Lorsqu'on étudie la qualité de l'air, on s'intéresse aux polluants qui sont présents dans l'atmosphère, ceux que l'on peut respirer au voisinage du sol, aux quantités de polluants présents dans l'atmosphère, ainsi qu'à leur devenir. On doit donc modéliser, essayer de représenter tous les phénomènes que subissent ces polluants, donc tous les phénomènes dans lesquels ces polluants sont impliqués. Et ces polluants rentrent dans deux catégories. Il y a les polluants qui se présentent sous forme gazeuse, comme les ozones ou les oxydes d'azote, et puis il y a les polluants qui se présentent sous forme liquide ou solide dans l'atmosphère. En général, ce sont des petites particules, on parle d'aérosols. Et ces particules peuvent être émises, tout comme les gaz, par des activités humaines, on parle d'émissions anthropiques, ou par des activités, par l'activité naturelle, on parle d'émissions biogéniques.
Mais comment évoluent précisément les polluants dans l'atmosphère?
Les polluants sont d'abord émis, et sont ensuite transportés par les vents. Ils sont aussi mélangés par turbulence dans l'atmosphère, disons sur le premier kilomètre de l'atmosphère. Et ce qui est très important, il faut voir que l'atmosphère est un grand réacteur chimique dans lequel les espèces réagissent entre elles. Et on cherche à modéliser en général tous les phénomènes qui se produisent dans l'atmosphère. Par exemple, l'ozone, qui est un polluant important, réglementé, est un polluant qui n'est pas émis. Si on ne tient pas compte des réactions chimiques, on n'a donc pas d'ozone dans nos simulations.
Donc il est très difficile d'évaluer correctement la qualité de l'air dans la mesure où les conditions atmosphériques bougent sans cesse.
Oui, donc il faut tenir compte des phénomènes de transport et des phénomènes de chimie où les espèces vont réagir entre elles, où les aérosols, ces particules liquides ou solides vont réagir avec les espèces gazeuses et vont grossir, évoluer en taille. Elles peuvent coaguler entre elles, donc deux particules forment une particule plus grosse, ou elles peuvent échanger de la matière avec la phase gazeuse, donc avec les gaz en présence dans l'atmosphère pour grossir ou diminuer en taille. Donc il faut tenir compte de tous ces phénomènes-là qui sont dépendants effectivement des conditions météorologiques. Et nous, ce que nous modélisons, ce que nous simulons dans nos modèles, c'est les phénomènes de dispersion, de transport des polluants et de réaction entre ces polluants. La partie météorologique étant calculée par des modèles météorologiques. Nous utilisons ces données, ainsi que des données d'émission, des données sur la description des sols, pour pouvoir simuler le comportement des polluants dans l'atmosphère.
Vous vous servez donc de données différentes et des modèles établis par d'autres infrastructures. Comment se fait ce couplage des données avec les modèles?
Il se fait assez naturellement, puisque ces données-là sont des entrées de nos modèles numériques. Par contre, on a une forme de couplage qui est plus complexe, qui concerne le couplage entre les simulations effectuées par nos modèles et les observations.
Et ce couplage, en quoi est-il complexe?
Il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau qui consiste à essayer d'évaluer les modèles. Donc on peut simplement comparer ce que calcule un modèle aux observations. On peut ensuite essayer d'affiner ça pour essayer d'estimer quelle est l'incertitude de nos modèles. Pas seulement savoir si ce modèle-là a été performant à un certain instant ou comparé à une certaine observation. On peut essayer d'en déduire des informations plus précises sur les incertitudes de notre modèle, savoir quelle est la véritable qualité de notre modèle. Et cette qualité-là, on peut l'évaluer sur la base de prévisions ou de simulations de modèles numériques, comparées aux observations par des méthodes mathématiques adaptées. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de couplage concerne l'amélioration des prévisions de nos modèles. Puisqu'on dispose d'observations, c'est une information supplémentaire sur la réalité et on souhaite l'utiliser de sorte à améliorer nos modèles ou améliorer au moins les prévisions de ces modèles. Pour cela, on utilise des techniques dites d'assimilation de données, où l'objectif est de fusionner ces deux sources d'informations, qui sont l'observation et ce que calculent les modèles, de manière optimale, de sorte à reconstituer au mieux les quantités de polluants réels qui sont dans l'atmosphère.
Alors, vos modèles, ils sont bons ou pas?
Les modèles sont de qualité assez inégale selon les polluants. Il y a des polluants qui
D'accord.
sont plus ou moins bien modélisés physiquement, parce qu'on connaît plus ou moins bien les processus impliqués.
Et si on prend le cas de l'ozone, par exemple?
Pour l'ozone, si on souhaite faire des prévisions sur le lendemain ou le surlendemain et connaître le pic d'ozone, c'est-à-dire la concentration maximale atteinte dans la journée, qui est une concentration réglementée, alors on peut avoir des prévisions qui vont faire une erreur de l'ordre de 20%.
20%, ça ne paraît pas énorme.
20%, c'est déjà une erreur assez importante, mais me disais, l'atmosphère est une tâche assez complexe. Il faut voir qu'il y a des phénomènes qui se passent déjà à toutes les échelles. Les particules qu'on représente vont avoir une taille caractéristique, disons, d'un millionième de mètre. Et on va représenter des interactions avec les végétaux, avec éventuellement des bâtiments, et il va falloir prendre en compte des phénomènes, jusqu'aux phénomènes météorologiques de grande échelle.
Oui, il y a énormément de données qui rentrent en compte.
Il y a beaucoup de données, il faut qu'elles soient assez précises et capables de représenter des phénomènes qui se produisent à différentes échelles, sachant qu'on ne peut pas calculer ce qui se passe effectivement à toutes les échelles. Donc on est obligé de reposer sur des hypothèses simplificatrices ou reposer sur des valeurs très moyennes. Un modèle numérique, à l'échelle européenne, va calculer les quantités de polluants dans des mailles, c'est-à-dire dans des boîtes de taille 50 km par 50 km. Alors qu'à l'intérieur d'une région de 50 km par 50 km, les polluants ne sont pas présents de manière homogène. Et beaucoup de phénomènes vont se passer dans cette boîte.
Oui, il y aura des variations.
Voilà, il y aura des variations qu'on ne peut pas représenter explicitement, parce que ça demanderait beaucoup trop de ressources de calcul de descendre à des résolutions beaucoup plus fines de l'ordre du mètre. De plus, on ne disposerait pas de toutes les données pour le faire. Et dans ce contexte donc assez complexe de simulation de l'atmosphère, notre maquette numérique représente plus ou moins correctement les phénomènes qui se produisent dans l'atmosphère en fonction des polluants. On n'a pas la même connaissance des émissions pour tous les polluants, on n'a pas la même connaissance des cycles chimiques pour tous les polluants, et donc il est plus ou moins facile de prévoir tel ou tel polluant.
Vous faites également des prévisions en cas de risque ou d'accident. Si on prend le cas d'un accident nucléaire, par exemple, Tchernobyl reste quand même un exemple marquant. Comment traitez-vous ça ?
Nous travaillons avec l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui a déjà mis en place et continue à travailler sur un système de prévision en cas de crise, pour savoir quelles sont les zones qui peuvent être impactées dans le cas malheureux où une centrale nucléaire exploserait, ou plus vraisemblablement aurait rejeté des parties du contenu de son réacteur, devrait rejeter des éléments radioactifs dans l'atmosphère de manière relativement contrôlée.
Est-ce que vous avez fait des prévisions sur Tchernobyl, par exemple, pour voir ce que ça donnait?
On a refait la simulation de Tchernobyl. On peut constater que le nuage est passé au-dessus de la France, ce qui a d'ailleurs été observé. Alors quand on parle de nuages, on parle de concentrations qui peuvent être mesurées. Alors, on simule une arrivée de polluants qui peuvent être détectés par les instruments, qui sont donc au-delà des limites de détection des instruments. Et effectivement, il y a eu des mesures du nuage radioactif en France, dans des concentrations qui ne sont pas dangereuses pour la santé, tant qu'elles restent dans l'atmosphère. Alors après, il y a d'autres phénomènes qui
font que ça se déplace.
Lorsqu'il y a des précipitations, les polluants, les polluants se retrouvent précipités au sol, ce qui peut conduire à, dans les sols, des concentrations plus élevées. C'est à savoir si elles peuvent être néfastes à la santé.
Et est-ce que vos prévisions peuvent avoir un impact sur les décisions politiques ?
D'un point de vue politique très concret, les modèles peuvent effectivement servir en cas de crise pour savoir s'il faut dépasser les populations, en tant qu'aide à la décision. On peut imaginer qu'ils puissent servir à éviter des dépassements de seuil de pollution pour de la pollution chronique, en prenant des mesures, parfois de réduction de vitesse, ou ça peut être d'autres types de mesures visant à diminuer par exemple les émissions. Les modèles peuvent aussi servir à évaluer l'impact de mesures prises sur le plus long terme.
De quelles mesures vous parlez ?
Des mesures qui visent à réduire les émissions de certains secteurs d'activité. Ça peut être le trafic, ça peut être l'industrie, ou l'agriculture. On peut sur la base de nos connaissances et de nos modèles numériques, évaluer quel serait l'impact de réduction d'émissions dans certains secteurs sur une année typique.
Et quel est votre objectif en faisant ça ?
L'objectif est de savoir si des réductions d'émissions qui auront un coût très important, on le sait, auront un impact significatif sur la qualité de l'air, et éventuellement donner des recommandations sur le type de réduction à privilégier pour avoir un impact maximal sur la qualité de l'air.
Merci Vivien Mallet d'avoir répondu à nos questions. Ce podcast est maintenant terminé. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.